bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 23 avril 2014. Et en fait, l'émission est même rebaptisée aujourd'hui. Elle ne s'appelle plus Spectaculaire, elle s'appelle Shakespeare-taculaire. Et pourquoi ça? Parce que Shakespeare est né un 23 avril, également mort un autre 23 avril, 1564-1616. Et Shakespeare va être la grosse actualité de l'émission d'aujourd'hui, puisque Christophe Rollin au micro, certes c'est moi, mais Gérald n'est pas aujourd'hui présent. Je suis en revanche en fort bonne compagnie. Jessica est avec moi, ainsi que Amaury. Ils sont en train de faire des shakes ou je ne sais quoi. Ces deux comédiens sont dans la pièce Richard III qui est donnée depuis hier au théâtre de la Renaissance à Oulin. C'est à côté, hein, vraiment en métro B. On est super vite rendu là-bas. Ça a commencé hier, le mardi 22 avril. Il y a encore une date ce soir, le mercredi 23. Et demain, jeudi 24, c'est à 20h. C'est un petit peu long, 3h. Mais nous en parlerons de ces 3h de ce Richard III, Richard Puissance 3, pendant toute cette émission qui commence un tout petit peu en retard. Il est 14h et combien 4 minutes, c'est absolument terrible. Nous sommes bien sur Radio Canu, radiocanu.org si vous nous écoutez sur internet, ou sinon c'est quand même plus facile à Lyon, le 102.2 de la bande FM. Nous allons commencer avec une sorte de musique introductive. Il s'agit de Eminem, puisque dans son titre Lose Yourself, il y a quelques accents shakespeariens, différentes paroles, différents mots. Make me king, faites-moi roi, et puis surtout le feet, fail me not. Pied, ne m'échouez pas. Nous commençons donc avec cette première piste, et puis ensuite Amaury et Jessica se présenteront et nous parlerons plus précisément de cette pièce Richard III de Shakespeare en deuxième partie d'émission. Vous verrez tout cela, restez à l'écoute et puis c'est tout.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip.
Yo.
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They move Nick Schmo, who flows, he knows, dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da 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 da. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been
shoot up and spit out and boot off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail.
Et ça continue encore comme ça pendant 20 secondes, mais on va arrêter le, non pas le massacre, mais bon, ça y ressemble. Dans les studios de Radio Canus, c'est une fête. On se croirait en discothèque, c'est bien ce terme-là. Je crois que ça fait depuis les années 90 que c'est plus utilisé. Nous sommes en fort bonne compagnie. La pièce Richard III a commencé avec une dizaine, je crois même, ils sont tout pile 10, 10 comédiens, dont certes Dominique Pinon, mais parlons des autres, puisque Dominique Pinon, je pense que ça va, il est assez connu. Peut-être n'a-t-il pas besoin de la publicité que pourrait lui assurer Radio Canu. Alors, entretenons-nous donc avec deux autres invités. Jessica qui sourit parce que je suis en train d'attraper là, le, je sais pas comment nommer ça, le hublot. Et puis Amaury, Amaury de Crayancourt et Jessica Martin qui nous arrive importation d'Espagne. Alors, il a été compliqué de faire suivre ses bulletins scolaires, donc on ne sait pas comment ça marchait pour elle en classe de 4e ou CP. Je crois que le CP ça fonctionnait. Donc bref. Nous allons faire tout d'abord un portrait de nos invités avant de parler plus précisément de cette pièce, Richard III, qui est au Théâtre de la Renaissance à Oullins. À 20h depuis hier soir jusqu'à ce jeudi. Donc, serons-nous galants à Maury? Laissons-nous la parole à Jessica tout d'abord.
Bien sûr.
Avec un très bel accent, un accent hispanophone, hispanique, un accent d'Espagne, un accent de la Galice. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Alors, je vous en prie, pourriez-vous, je ne sais pas, mettons assez brièvement, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, pourriez-vous retracer un peu votre parcours? D'où arrivez-vous? Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous atterri à Oullins, puis à Lyon, là, dans ces studios de Radio Canu? Qu'est-ce que vous avez fait auparavant pour vous destiner vers le théâtre?
Alors, pour être brève, je suis née le 11 janvier de 1985 dans une petite ville de l'Australie, Melbourne, Alton.
Waouh.
Alors tout de suite, j'ai rentré à la Galice où j'ai passé toute ma vie, j'ai bien fait mes études. Et après, de la Galice, j'ai rentré dans le cirque, voilà, au cirque. Et j'ai commencé le cirque, j'ai fait 6 ans d'école, 3 à Barcelone, 3 à Paris, à l'Académie Fratellini. Et c'est là que j'ai connu à Laurent Fréchouret, le directeur de la pièce de Richard III.
Le metteur en scène, oui.
Oui. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre avec Amaury et le reste des comédiens.
Est-ce que vous êtes également à Sartrouville? C'est là que, je crois, est basé, enfin du moins c'est là que se trouve Laurent Fréchouret actuellement, ou
non,
je me trompe?
Non. En fait, il a dirigé le CDN de Sartrouville pendant 9 ans.
Il a dirigé, c'est ça, jusqu'en 2012. Oui.
Jusqu'à l'année dernière, maintenant c'est Sylvain Maurice qui est au théâtre. Mais donc on est allé jouer à Sartrouville, on a joué 3 jours là-bas il y a 2 semaines.
Et je ne sais pas, Jessica, finalement, on dirait que vous avez terminé, alors que non, il y a sûrement encore beaucoup à dire, je ne sais pas.
Il y a tant de choses à dire sur
quelques
Jessica.
Quelques spectacles, ou alors donc votre participation à cette pièce notamment, et enfin, donc pas que dans cette pièce, c'est le domaine du cirque, c'est ça? Ce n'est pas vraiment le théâtre?
Non, c'est le cirque, en fait.
Et alors le cirque, quoi donc
Je suis acrobate, clown, et voilà, c'est ça un peu que j'ai fait dans cette pièce. Et j'arrive. Ouais, je suis pirate, surtout pirate. Ça, je voulais pas le dire encore. Je voulais attendre à la fin de l'émission, mais ok, c'est vrai, je suis pirate. Voilà. Et en fait, j'ai commencé le cirque parce que à Galicie, il y a une petite école. Alors, j'ai commencé à faire de l'acrobatie, quelques trucs en plus. Ils me sont dit que j'étais à l'aise à faire des. Bon, cet métier. Alors, j'ai commencé à investiguer. On dit comme ça ?
Enquêter, vous renseigner.
Ouais, renseigner. Ah, oui. J'ai vu qu'il y avait plein d'écoles de cirque qui étaient formées, surtout en France, et pas beaucoup en Espagne. Alors, j'ai fait la migration. Et je me formais là-bas. J'ai fait une école de préparatoire. Et après, j'ai rentré à Fratellini en disant que je voulais être clown et acrobate. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien pouvoir avoir un public, faire rire et aussi pleurer, mais plutôt faire rire. Et j'adore les spectacles, en fait.
Vous avez, bon, déjà,
rien et tout, là.
Vous avez déjà une grande carrière derrière vous de comédienne acrobate, clown, et je ne sais encore.
Pas vraiment, en fait. La formation à Fratellini, c'est un centre de formation d'apprentis. Alors, on a des alternances, ça veut dire qu'on travaille en même temps qu'une étude. On a un pourcentage de la formation que c'est du travail. Et c'est là que j'ai eu plutôt ma expérience, parce que j'ai fait 3 spectacles de Noël. C'est 35 spectacles, une bande 8 jours. Et c'est dans un grand chapiteau avec 2000 personnes, des enfants qui crient et qui tapent sur les pieds.
Seul sur scène? Non, avec toute une troupe.
Non, c'est un spectacle, ouais. C'est des spectacles avec plusieurs personnes. Et moi, je suis le clown qui fait les liens entre les numéros et des petits sketchs. J'ai travaillé aussi avec Valérie Fratellini, qui est la directrice pédagogique de là-bas. Et avec des gens comme Colin Serrault, Jérôme Thomas, qui sont des gens connus dans les milieux du cirque.
Je ne sais pas, je ne résiste pas à la question. Est-ce que votre voix contribue également? Est-ce que cet accent contribue? Ou alors le clown, vous êtes un clown muette sur scène?
En fait, je suis plus muette maintenant que je suis ici en France. Parce que avec mon accent, c'est pas facile de me faire comprendre. J'ai fait un gros effort pour la pièce Richard III. Laurent, il m'a donné une opportunité. Mais en fait, en espagnol, en Espagne, je suis vraiment à l'aise avec la parole. Et ça, c'était un handicapé que j'ai trouvé quand j'ai arrivé ici. Parce que vraiment, j'improvise beaucoup avec la parole. Je me sors des silences dans les spectacles avec la parole. Et là, je trouve que je dois vraiment, avant de dire quelque chose, réfléchir à comment je le dis. Parce que sinon, peut-être que les gens ne comprennent pas. Et en fait, ça m'arrive beaucoup de fois.
Ah, mais là, ça marche très bien. Nous vous comprenons très bien. Les auditeurs n'appellent pas encore. Le téléphone n'a pas sonné. Donc, je n'ai encore eu aucune déclaration ou plainte. Ou... Nous ne comprenons rien de ce qui est prononcé. Non, tout est bien clair. Après, j'hésitais à lancer cette petite pique. Votre écrit peut être éventuellement assez amusant. Il y a une forme d'humour dans des textos que j'ai pu lire. C'est très drôle, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que vous allez rester en France ou est-ce que faites-vous des allers-retours avec l'Espagne?
Je ne veux pas parler de politique, mais en fait, là, l'Espagne, on est dans un moment vraiment difficile. Alors, la France, il m'a ouvert ses portes. Et j'espère rester ici parce que je l'aime bien comme pays, je l'aime bien pour travailler. J'ai les réseaux ici, j'ai des amis. Ça va bientôt finir. Et je crois que je vais rester ici jusqu'à que je me fasse virer.
À ce point. Bon.
Ouais. Sinon, je me marierai avec quelqu'un français pour avoir les papiers.
Écoutez, on va sûrement trouver, ce n'est même pas nécessaire, une jolie photo, puisque la photo sera facile avec vous. Donc, on va trouver une photo que nous mettrons sur le blog pour avis aux intéressés. Nous avons offre de mariage, ça peut être bien, un aspect intéressant. Eh bien, nous n'avons donc pas mis la main sur ces bulletins de CP de 4e. En revanche, Amaury, nous les avons, vous, les vôtres. Donc, je crois qu'il est indiqué élève dissipé et prompt à faire un petit peu la fête. Non, bref, je dis absolument n'importe quoi. Quel est votre parcours à vous? Puisque Jessica, vous restez avec nous, vous pouvez encore intervenir volontiers, je vous en prie. Mais intéressons-nous à cet intervenant dans cette pièce très sérieuse, Reverse Richmond à la fin. Richmond qui a un rôle très important face à Richard III. Donc, Amaury de Crayoncourt, je suis sur Internet, on voit de belles photos vous, hein, de vous-même sur, sur une page Google, un moteur de recherche. Je vous en prie. Peut-être, oui, agence artistique, je crois. Oui, on mettra ça sur le blog. Est-ce que vous pourriez également indiquer, je ne sais pas, la même chose que ce qu'a fait Jessica? Où étiez-vous auparavant? Quelles études avez-vous faites? Comment est-ce que vous avez rencontré Laurent Fréchuret? C'est très bien, Jessica, vous nous avez absolument tout indiqué. À quel endroit avez-vous vu précisément Laurent Fréchuret? C'était à Paris,
L'Académie Fratellini, l'avril de l'année dernière. On fait ça en stage en attendant Godot.
Ah d'accord, il est venu voir comme ça le...
Non, il nous a fait un stage d'une semaine.
C'est lui qui...
Oui, lui, il était le prof. Et j'ai fait une petite intervention et lui, il adorait mon accent.
Il a été... Voilà. Donc, la rencontre avec Laurent Fréchuret. Donc, je vous en prie, Amaury, pourriez-vous justement évoquer ce qui a précédé cette rencontre avec Laurent Fréchuret, puis nous indiquer également comment elle s'est faite?
Alors, donc, moi, j'ai qu'est-ce qu'on va dire, le théâtre, moi, j'ai commencé à Rouen. J'étais au lycée, j'ai fait une option lycée à Rouen. Une option théâtre, pardon, dans mon lycée à Rouen. Et puis, voilà, sans me dire spécialement que j'allais en faire mon métier, c'est en arrivant à Paris que j'ai commencé à me dire que ça pourrait être un métier sympatoche. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait travailler assez rapidement, et j'ai fait le CFA des comédiens, le studio théâtre d'Asnières, qui est dirigé par Jean-Louis Martin Barbaz et Hervé Van der Melen, qui est une école que je trouve vraiment géniale, parce que c'est comme Jessica l'a fait, c'est du travail en alternance aussi. C'est un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis comédiens. Donc pendant 3 ans, en gros, il y a des stages, il y a des répétitions, et puis il y a des spectacles, parce qu'on est distribué dans les différents spectacles de la compagnie, et on voit des choses très très variées: le chant, la danse, la comédie, la marionnette. On envisage beaucoup de différentes disciplines. Donc c'est une formation que je trouve très très complète.
Et donc seulement sur les planches, pas de télévision ou de...
Alors si, je
domaine évoqué, si, oui.
Si, je tourne un petit peu. Là, je suis dans une série qui s'appelle Nos chers voisins. Je fais le docteur Derek dans Nos chers voisins en ce moment. Donc voilà, je tourne un petit peu à la télé, mais c'est vrai que c'est pour l'instant au théâtre que je trouve beaucoup mon plaisir. Mais après, je serais malheureux de faire que du théâtre, je serais malheureux de faire que de la télévision. Je suis content d'arriver à concilier les deux, parce que voilà, j'aime beaucoup toutes ces expériences là, quoi. Donc c'est chouette.
Et cette rencontre alors avec Laurent Fréchuret, le metteur en scène.
Alors, il a monté en 2010, il a monté l'opéra de Katsu de Brecht. Et du coup, à ce moment-là, il a cherché à faire une petite forme théâtrale. C'est-à-dire que l'opéra de Katsu... d'ailleurs, on retrouve des acteurs de l'opéra de Katsu dans Richard III. Thierry Gibault faisait Maki, Nine de Montal aussi, qui fait Elisabeth dans Richard, jouait dans l'opéra de Katsu. Donc il a monté ce gros spectacle-là. Et autour du spectacle, il voulait créer une petite forme qui s'appelait l'opéra d'un sou, qui était une petite forme qui devait annoncer le spectacle. Donc c'est-à-dire que sur la tournée du grand spectacle, moi j'arrivais... une semaine ou deux avant, et je jouais dans les écoles. C'était une forme pédagogique surtout, et je jouais dans les écoles comme une espèce de bande-annonce théâtrale du spectacle. Donc c'était un truc où j'étais tout seul pendant 30 minutes et je faisais 8 personnages de l'opéra de Katsu. Il y avait un petit peu de chant, il y avait quelques petits pas de danse comme ça, et puis je jouais 30 minutes voilà de ce spectacle.
Vous parliez de chant tout à l'heure, est-ce que vous entonniez le Maki Messa
ou alors notamment
Mac the Knife, hein, je sais.
Exactement,
plus,
la complainte de Maki,
qui peut passer à la radio. Na, 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 na. Vous le faisiez en français? Oui,
je le faisais en français, ouais, je faisais tout en français.
Ni anglais, ni allemand.
Et effectivement, donc je chantais la complainte de Maki, je chantais plusieurs chansons, ouais, de...
Ah oui, c'est vrai,
de l'opéra de Katsu.
L'opéra de Katsu, je pense à celle-ci, mais il y a quand même beaucoup, il y a une importante part musicale, puisque c'est précisément un opéra au début.
Ah bah c'est
musique de Kurzweil, c'est ça.
C'est musique de Kurzweil. En fait, il y a pas de... c'est pas une comédie musicale, c'est pas un opéra, c'est pas de l'opérette, c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est tout à la fois. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout, parce que voilà, il y a beaucoup de musique, mais aussi beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de... c'est une espèce de genre à part, en fait. Brecht, il a inventé beaucoup de choses, et l'opéra de Katsu, c'est une œuvre totale qui relie plein de disciplines différentes. Donc c'était super de travailler avec Laurent Fréchuret autour de ça.
J'ai mal suivi, vous jouiez vous-même dans cette pièce, ou en fait, non, c'était plutôt la présentation? Non, vous aviez un rôle également dans la pièce.
Ah non, pas dans la pièce, je jouais uniquement dans cette petite forme.
Seulement cette...
Voilà, dans le paradis sous. Et du coup, il y avait quelque chose de frustrant de ce...
Ah bah sûrement, oui.
Bah oui, après, cette expérience était vraiment géniale, parce que c'était... J'ai joué plus qu'en fait à jouer le grand spectacle. J'ai joué pas mal cette petite forme. Mais c'est vrai qu'avec Laurent, on s'est rencontrés que 4 jours. On a répété 4 jours ce truc-là. Et puis ensuite...
À Sartrouville, donc.
À Sartrouville. Donc il y a quelque chose d'un petit peu frustrant d'avoir travaillé un peu ensemble, mais pas... Et du coup, voilà, donc là, c'était l'occasion de retravailler ensemble autour de Richard III.
Vous avez également fait partie de la distribution du Roi Lear, puisque j'ai cru comprendre que cette pièce dans la carrière, enfin, je ne sais quoi, dans ce que mène actuellement Laurent Fréchuret, c'est une pièce qui vient après le Roi Lear qu'il a monté il y a six ans. Dominique Pinon, déjà.
Voilà, c'est ça. Dominique Pinon faisait donc le Roi Lear, Laurent Fréchuret mettait en scène, et du coup, déjà à l'époque, que tous les deux avaient très envie de faire Richard III ensemble. Et puis voilà, il a fallu un peu de temps pour construire tout ça, et ça s'est fait donc l'année dernière. Donc voilà, donc Laurent m'a appelé l'année dernière pour me proposer Richard III, donc j'étais ravi, d'autant plus que maintenant je connais Rafika Martin.
Que je suis sa prof de pirate.
Elle m'apprend à être pirate.
Ouais. Fort bon pour l'instant seulement, c'est ça.
Ouais, exactement.
Flibustier, pas encore le grand rôle. Ouais. Oui, je mélange les dates. Oui, effectivement, en 2008, le Roi Lear, 2010, donc vous dites l'Opéra de Katsu, et là nous sommes en 2014, donc c'est vrai, cela fait 6 ans, c'est la première pièce du Roi Lear. Est-ce que vous êtes dans les petits papiers tous les deux de Laurent Fréchuret? Est-ce qu'il y a d'autres pièces de Shakespeare envisagées? Est-ce que vous en feriez partie? Est-ce que...
On va faire
Roméo et Juliette peut-être.
Alors ça c'est tous les deux seulement.
Une version pirate.
Non, en fait on sait pas du tout. Laurent il se laisse un peu libre de choisir un peu ses prochains projets. Après c'est un metteur en scène qui est très curieux toujours de nouveaux acteurs, de nouvelles personnes. Donc je sais qu'il prend aussi plaisir à rencontrer des gens nouveaux à chaque spectacle. Donc non, rien dit qu'on sera dans ceux d'après. Et puis si on y est, ce sera très bien. Enfin, on se pose pas spécialement cette question-là. Et puis sur la suite des événements, donc maintenant Laurent il est plus à Sartrouville, il est comme on dit en compagnie, c'est-à-dire qu'il est libre en fait, il est là où il veut. Donc voilà. Donc je pense que peut-être que lui-même ne sait pas exactement. Mais si, je ne sais pas si on peut en parler. Mais non, on peut pas en parler. Non,
bah,
voilà.
Parce que c'est pas encore fixé. Mais
bon, bah, voilà. Donc,
quelques trucs que ça peut arriver, mais il va faire aussi la pièce En attendant Godot avec quelques sons.
C'est pareil.
Ouais. C'est des projets qui ne sont pas encore signés.
Il y a des choses qui arrivent peut-être.
Alors une surprise.
Une réflexion que je pourrais ajouter sur Laurent Fréchuret. Je la trouve dans le petit programme qui est distribué au Théâtre de la Renaissance. Vous disiez à l'instant qu'il est curieux et c'est comme cela qu'il indique sa rencontre avec Shakespeare. Je suis toujours venu au classique grâce au moderne. C'est à Bacon que je dois ma découverte de Velázquez et c'est Beckett qui m'a mené à Shakespeare. Donc effectivement une personnalité, un personnage très curieux. C'est dommage que Gérald n'ait pas pu être là, le co-animateur, puisqu'il a connu Laurent Fréchuret dans ses années stéphanoises, le Théâtre de l'Incendie. Il a vu différentes pièces, donc c'était avec plaisir qu'il l'aurait revu, mais quand on m'a dit qu'il ne pourrait pas venir ni Dominique Pinon, je me suis dit, ce n'est pas grave, rabattons-nous, enfin, nullement rabattons-nous, c'est trouvons des acteurs qui seront bien plus intéressants que ces deux personnes.
Ah non, j'ai entendu rabattons-nous. Jessica,
merci beaucoup, c'est fini la mission.
Mes mots dépassent mes mots, je ne sais quoi, je parle trop.
Effectivement, Laurent vient de Saint-Etienne, et d'ailleurs, moi j'ai vécu 4 ans à Saint-Etienne aussi, donc là je suis pas très loin du bercail. J'ai vécu 4 ans là-bas.
C'est intéressant, on peut s'en sortir donc.
On peut s'en sortir.
C'est une très bonne chose, un excellent témoignage.
Et du coup, j'ai vécu 4 ans là-bas pendant mon adolescence. Et du coup, on a joué une semaine donc à la Comédie. C'était très important pour Laurent parce que c'est vraiment là, il habite encore là, lui, c'est vraiment sa ville. Et puis c'était super émouvant pour moi aussi parce que le troisième jour, j'avais toute la troisième rangée qui était, c'était tous mes potes, que j'avais 11 potes d'enfance qui étaient là et c'était assez. Assez émouvant.
Vous avez parlé de compagnie. Est-ce qu'il y a vraiment une compagnie de Laurent Fréchuret?
Oui, c'est le Théâtre de l'Incendie. C'est le nom de la compagnie.
Ah, d'accord. Je pensais que c'était seulement ce nom stéphanois. Disons, oui, c'est le nom stéphanois, mais c'est également ce qu'il continue.
Ah oui, ça s'est toujours appelé le Théâtre de l'Incendie.
Et vous en faites partie? Vous êtes dans cette compagnie ou non? Je sais pas vraiment.
On en fait partie parce qu'on travaille avec le Théâtre de l'Incendie maintenant,
pour des projets, mais c'est.
En fait, il y a pas de carte d'adhésion. Quoi,
voilà, c'est pas un club.
Non, c'est pas un club. C'est-à-dire que Laurent a monté le Théâtre de l'Incendie. On fait un spectacle qui en ce moment se joue avec le Théâtre de l'Incendie. Donc oui, on peut dire qu'on fait partie du Théâtre de l'Incendie, mais c'est pas voilà, c'est pas un club. Il y a pas de carte d'adhésion.
Je pense qu'on va pouvoir, nous sommes assez disposés à parler plus précisément de cette pièce, peut-être avant de l'évoquer elle-même. A-t-elle, je crois avoir compris tout à l'heure, Jessica, dans vos propos, que ce sont un petit peu les dernières représentations actuellement au Théâtre de la Renaissance. Est-ce qu'elle a déjà eu une belle durée de vie? Elle a commencé en 2013,
cette pièce? Oui, on a fait 35 spectacles. On a commencé la...
35 représentations.
35 représentations, oui, tout à fait. Et on a commencé en décembre à Gennevilliers, au nord de Paris. pour faire la création. Et on est passé là-bas un mois. Après, on est parti à Tours, 20 jours. Et après, on a commencé la représentation. Et on a joué 35 fois. Et ça, c'est les trois dernières à Oulin. Bon, les deux dernières. Et voilà, on ne sait pas si on va rejouer, si on va faire une reprise, mais là, ça arrive la fin.
Pour l'instant, non. Là, a priori, il n'y a plus de date. Une fois passé demain soir, 23h30, c'est voilà.
Ils
ne
sont pas écrits dans notre agenda, mais peut-être que pourrait. C'est
Mais oui, c'est vrai que c'est une belle histoire déjà. Donc voilà, on a joué à Tours, à Saint-Étienne, à Roanne,
Laval,
à Lausanne.
Laval, Priva. Ouais.
Donc c'est super. Et Lausanne, c'était très sympa. On a pu passer 10 jours là-bas. On a joué 10 jours au bord du lac. C'était chouette.
Ah, ça, c'est bien. Voilà. Une belle longueur. Là, je ne sais pas si on pourrait faire ce reproche peut-être au théâtre de la Renaissance. Nous en parlions la semaine dernière ou il y a encore aussi un mois.
Ah non,
parfois, les pièces peuvent avoir une belle durée de vie. Mmh. Il y a une pièce actuellement à la Célestine avec François Bégodeau qui était présent ici la semaine dernière, qui est sur. Je crois que ça a commencé mercredi dernier. Le 18, c'est ça, avril, quelque chose comme ça, ou 15 avril. Mmh. 16 avril et ça continue jusqu'au samedi 26. Donc ça fait 10 dates. Mmh. Il y a également des opéras ou OTNP, je crois que c'est Perceval actuellement, qui est sur presque 15 dates, je crois. Le Roi Lear en décembre dernier, pareil, a été sur une vingtaine de représentations. Là, Théâtre de la Renaissance, 3, c'est très bien, mais c'est
ouais,
bien,
c'est
une petite
bien. Semaine.
Non, mais c'est très bien, mais enfin, vous parlez de reproches, pour moi, il n'y a aucun reproche.
Vous dites 10 jours à Lausanne, ça, c'est bien sûr.
Oui, bien sûr, mais y a pas, c'est déjà super de jouer ici.
C'est déjà bien aussi de jouer juste un jour, c'est juste que c'est un peu compliqué parce qu'il faut se réveiller très tôt dans notre ville, prendre les trains, arriver, faire un raccord. Bon, ça fait une longue journée, pour exemple, je me réveille à 6h du matin et on se couche à 2h de la nuit. Et surtout les techniciens qu'il faut qu'ils arrivent les jours d'avant pour les montage, les jours même, il faut qu'ils fassent tous les raccords avec nous, voir les problèmes. Il faut qu'ils, après les spectacles des 3 heures, qui sont là, les démontages, alors ils finissent vraiment braquer les jours de juste en représentation. 3 jours les permet de ne pas faire montage.
Là, 3 jours, on a un peu plus de temps. Puis c'est aussi l'occasion de venir un peu manger dans des bouchons lyonnais et dans des brasseries Paul Bocuse.
Il faut dire qu'à Maurice, c'est un vrai, comment on dit, un dégustateur.
Un gourmand.
Oui. Et c'est lui qui.
Un baffreur même.
Il nous cherche des restos à chaque ville. Il nous dit, j'ai trouvé 3 et on va les faire et on a les temps.
Vous qui dites être un peu stéphanois, ça va, vous n'êtes quand même pas trop loin de Lyon, ça peut aller. Vous pouvez revenir, enfin vous pouvez venir quand vous le souhaitez à Lyon.
Non, j'ai habité que 4 ans à Saint-Etienne, j'habite plus.
Donc c'est terminé, vous n'avez plus de amis encore, mais plus d'accroche, pas de pied à terre ou
Non. En fait j'ai
une garçonnière.
J'ai habité là-bas de 11 à 15 ans parce que mon beau-père était muté là-bas, mais j'ai pas du tout de famille là-bas. J'ai une famille de cœur, disons.
Quand vous revenez à Lyon, vous en profitez pour les bouchons et puis pour. Saint-Etienne, vous y êtes déjà passé. D'ailleurs, c'est une question que je m'apprêtais éventuellement à vous poser après. Puisque j'ai déjà été maladroit, je vais continuer. Je ne sais pas comment vous demander ça. Est-ce qu'il est possible d'établir une sorte de palmarès des salles que vous avez vues? Enfin, non pas un top 5 ni top 10, mais peut-être, je ne sais pas, non pas un top non plus, mais est-ce qu'il y a des salles qui vous ont bien plus que d'autres, ou à la fois des publics, ou je ne sais quoi.
On a fait des salles très différentes. On a fait ce dont tu parles, Jessica, c'est on a fait des théâtres, ce qu'on appelle les théâtres à l'italienne, qui sont des très très beaux lieux. C'était à Roanne, je crois. Et à Boulogne-sur-Mer aussi, on a eu
c'était vraiment joli, ça. Même si les sols, ils n'étaient pas bien, parce qu'il y avait beaucoup de défauts. Une fois, on avait joué dans le sang, il avait des planchers de 5
degrés de pente.
Alors, la tour, elle partait, les fauteuils roulants aussi, et on était tous en train de dire oh. Mais il y a des salles avec super belles décorations. Le public, ça dépend toujours aussi.
Et c'est vrai que la salle du théâtre de la Renaissance à Oulin est un peu austère, enfin disons un peu.
Oui, mais c'est une petite.
L'espace.
C'est une petite jauge. Je crois que c'est la plus petite qu'on ait faite. Je crois qu'il y a 350 places, 380 places. Et c'est très agréable, en fait, parce que du coup, c'est un petit.
Plus intimiste.
Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu plus intimiste. Après, oui, il y a des salles et des publics. C'est ça qui est merveilleux avec le théâtre, c'est qu'on a joué 35 fois, mais il y a eu 35 représentations différentes à chaque fois. Ça, c'est vrai. C'est vrai de dire ça. C'est que.
Et l'art vivant.
Et oui, c'est ça, c'est de l'art vivant, il y a plein de choses. À Rouen, par exemple, il y a eu un truc magnifique qui s'est passé, c'est que...
Une anecdote.
Martine Chambachère, donc, qui joue... Je serais content
de raconter ça.
Qui joue la reine Margaret. Elle joue la reine Margaret, elle joue aussi la duchesse. Elle joue aussi la mère de Richard III. Et donc, elle a une perruque pour ce rôle-là. Et à un moment, donc, la fameuse scène entre la mère et Richard, où la mère dit, voilà, je regrette de t'avoir mis au monde, et Richard dit, bon, bah, laissez-moi tranquille. C'est un peu agité. Et à ce moment-là, pendant la scène, Martine perd sa perruque. Donc, magnifique, la perruque part. Petit moment de suspens dans la salle. Et 2 secondes après, sa réplique, c'est, écoute calmement celle qui a perdu son calme. Et là, elle a une espèce de présence d'esprit magnifique de dire, écoute calmement celle qui a perdu son calme et sa perruque. Là, donc, tout le monde se bat.
Ça,
c'était drôle. Donc voilà, c'est aussi chaque représentation est vraiment différente. Lausanne, c'est vrai que c'était très agréable parce que c'est un théâtre qui est au bord du lac Léman. C'est, mine de rien, il y a un petit côté exotique de pendant 10 jours de vivre et de payer en francs suisses. C'est idiot, mais c'est vrai. On est allé au bain, au terme là-bas. Enfin, ouais. Non, mais c'est ça qui est super aussi avec la tournée, c'est qu'il y a des choses, il y a plein de choses à voir dans chaque ville. Chaque ville a son, voilà, chez Rouen, il y a Trois Gros, à Lyon, il y a Bocuse. il y a vraiment plein de choses, quoi.
Il y a plein de choses à boire et à manger. C'est très bien, nous sommes.
Oh, les meringues avec la double crème de Suisse, ça déchire.
Nous sommes totalement prêts, donc, à parler plus précisément de cette pièce. Qu'est-ce que nous évoquons depuis, allez quoi, 10 minutes, un quart d'heure, ou même peut-être 5 minutes? Nous parlons de cette pièce Richard III, qui est donnée au Théâtre de la Renaissance à Oullins. C'est à 20h tous les soirs depuis hier mardi, encore ce mercredi et puis également demain. Nous allons marquer une légère pause pour écouter du Radiohead, Hunting Bears. Moi, il me semble que certains accents, ça fait un petit peu la musique que l'on peut entendre sur scène. Je sais pas, un peu de guitare électrique, une sorte de grand calme. Donc nous écoutons et puis nous continuons ensuite, toujours en présence d'Amaury et de Jessica. Nous sommes toujours, et ouais, ça n'a pas changé forcément, sur Radio Canu, 102.2 de la bande FM, radiocanu.org, et puis voilà, et c'est tout. Hunting Bears, et nous continuons avec Richard III de Shakespeare. Non, je savais que ça allait pas marcher. Ce n'est pas Hunting Bears, celle-ci. Où est-ce qu'elle se cache, Hunting Bears? Elle se cache. La voici. Extrait de l'album Amnésiac. Et pourquoi écouter cela? Parce qu'il me semble que certains accents font un peu la musique de scène qui passe lors de cette pièce Richard III. En début d'émission, nous écoutions Eminem parce que oui, on l'a entendu. Make me king, dit-il un instant. Il dit aussi feet fail me not, pieds ne m'échouez pas. Et Moi, il me semble que cette formulation est shakespearienne. Make me king, eh bien, je crois que c'est également tout de même toute l'affaire de cette pièce Richard III. N'est-ce pas Amaury, n'est-ce pas Jessica, deux comédiens de cette pièce qui nous ont fait l'amitié de venir à Radio Canu pour parler de cette pièce Richard III au Théâtre de la Renaissance à Oullins. Il joue plusieurs rôles puisque c'est là un peu un intérêt. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un intérêt de cette pièce, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'on ne peut pas non plus avoir une équipe d'acteurs qui serait équivalente à celle des personnages. On ne peut pas avoir 35 comédiens. Donc ils sont 10 présents sur scène et les 10, eh bien, c'est Jessica notamment, Dominique Pinon aussi, Nine de Montal, disiez-vous, Martine Chambachère,
David Oury,
Thierry Gibault,
Jean-Claude
Bollereda,
Pauline
Uruguen.
Et on les a tous nommés, je crois.
Pierre
Yesler.
Oui, je crois qu'on les a tous nommés. Donc ce sont les dix comédiens.
On va se faire engueuler si on en a oublié.
Non, je pense que...
Et les autres.
Et les autres. Les autres.
Donc ce sont les...
Qu'on aime à tous pareil.
Ce sont les 10 comédiens de la pièce Richard III, une pièce de Shakespeare qui date de 1592. Ouais. J'ai vérifié, hein, je n'ai nullement de connaissances grandes sur Shakespeare. Si ce n'est que si je savais cela, qu'il était né et mort un même jour, après savais-je que c'était le 23 avril? Non, c'est seulement en relisant ces jours-ci sa biographie. C'est quand même prodigieux aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois bien que c'est le 350e anniversaire de sa naissance, puisqu'il est né en 1564. Et alors, tout pile aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure il est né dans la journée à Stratford-on-Avon. Ouais. Il est également décédé un 23 avril en 1616. Donc là, ça colle pas. C'est pas une date, c'est le quoi 200 combien? C'est le 298e, peut-être un truc comme ça, je crois. Ouais, ça c'est un peu. Ça. Donc, cette pièce, Richard III, je vous en prie, Jessica, je vous en prie, Amaury. Que compte-t-elle? Dominique Pinon, qui est sur scène pendant une grande partie de la pièce, que fait-il? Il incarne donc ce Gloucester. Il change d'ailleurs de nom, hein, plus ou moins, au début. C'est Gloucester.
Voilà. En fait, tout à l'heure, avant l'émission, on évoquait l'adaptation, les coupes dans le texte, tout ça.
Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes.
Il y en a un petit peu, bien sûr. Et en fait, c'est essentiel parce que c'est un texte qui est très compliqué.
Traduit pour Dorothée Sumstein.
Dorothée Sumstein. Oui, non, mais dans les noms, c'est vrai qu'il faut qu'on cite aussi Alain Doreau et François Pellafra.
La traduction, je l'évoquais dans le compte-rendu qui est en ligne sur le blog. C'est important parce que j'ai lu dernièrement, je crois que j'avais dû tomber sur une mauvaise traduction. Je sais pas, ça peut sembler un peu plat, un peu creux. Et là, il me semble qu'il y a du nerf, enfin, il y a quelque chose. Il y a un temps qui marche dans ce texte.
Et en fait, il y a une chose aussi sur la. Voilà, vous parliez du nom de Richard. Effectivement, dans le texte de Shakespeare, chaque personnage a plein de noms. Donc déjà, il y a 30-35 personnages et chaque personnage s'appelle... Donc Richard, il s'appelle Richard, il s'appelle le duc de Gloucester, on l'appelle le sanglier, on l'appelle... Voilà, tout le monde a plein de noms différents. Et du coup c'est compliqué. Dorothée a réussi à rendre la chose assez compréhensible parce que sinon on deviendrait dingue, c'est-à-dire qu'on est 10 pour jouer 35 personnages. Donc, et en plus chaque personnage a plusieurs noms, ça peut vite être quelque chose de très très confus. Du coup là c'est rendu assez clair par la traduction et l'adaptation de Dorothée. Ouais.
Et alors un avantage c'est que, enfin pour cette pièce, pour la compréhension, c'est qu'au tout début, quand Dominique Pinon commence, il l'expose ce que va être la pièce, à savoir eh bien il va être un méchant, il est déterminé à jouer un méchant.
Je suis déterminé à jouer les méchants.
Le texte se trouve en ligne, je crois, sur certains documents pédagogiques. J'ai pu trouver ça, je les mettrai sur le blog, et je crois qu'il y a un commentaire qui est fait de toute la première scène, parce que la première scène est quand même très importante. On voit également apparaître le duc de Clarence, qui est assez enfin il n'est pas mis de côté tout de suite, mais on comprend un peu ce qui va lui arriver. Donc toute l'histoire de cette pièce c'est ça, c'est l'ascension au pouvoir de Richard III. Puis bon, je crois que ça correspond plus ou moins à l'entracte. Après l'entracte, c'est un petit peu une descente, après l'ascension.
Voilà.
Une sorte de chute à laquelle Richmond, vous êtes un peu lié.
Exactement.
Que dire de cette histoire? Partir dans certains détails? Non, c'est trop compliqué. Trop de personnages, disiez-vous.
Non, mais
des femmes également.
C'est intéressant de voir, pardon, c'est chouette d'avoir commencé par Eminem, par Yourself. Parce que, non, mais c'est vrai, Shakespeare, en fait, son 350e anniversaire aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, il est très très présent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, dans du Eminem, on peut retrouver du Shakespeare. Je sais pas si certains suivent forcément la série Game of Thrones, et l'auteur de cette série a confié qu'il s'était inspiré des pièces historiques de Shakespeare. Et effectivement, quand on regarde Game of Thrones, traduit par Jeu de pouvoir en français, c'est Richard III, quoi. C'est vraiment très étonnant les liens qu'on peut faire dans Richard III. C'est vraiment ça, c'est les jeux de pouvoir pour accéder au trône, quoi. À quel point l'homme est prêt à tout, notamment à tuer des enfants, des femmes, sa propre femme. Enfin, Richard va faire des folies uniquement pour avoir une couronne sur la tête, quoi. Et donc c'est cette folie là qui est décrite dans Richard III.
Vous parliez
le pouvoir.
Vous parliez de pièces historiques parce que on peut effectivement plus ou moins classer les pièces de Shakespeare en ces trois grands ensembles, comédie, tragédie et puis pièces historiques. Les comédies, c'est Beaucoup de bruit pour rien, il y en a peut-être une ou deux autres, mais il n'y en a pas tant que ça. Les tragédies, Roméo et Juliette notamment, Troïlus et Cressida, Jules César et Hamlet notamment aussi, mm-hmm. Othello, Macbeth, et puis les pièces historiques. Alors là, il y en a un paquet, puis il faut être bon en maths. Il y a Henri V, Henri VI, je crois, Richard III, il y en a encore quelques autres. Et donc celle-ci, pièce en plus, le personnage est une sorte de monstre, un fou furieux, mais la pièce également est monstre. Hein. Donc c'est cette durée, et encore, disiez-vous, avec les quelques coupes, elle est un peu raccourcie. Moi, il me semble que les coupes sont légères. Je pense qu'elle durerait quoi ? Peut-être 4 heures, oui, s'il y avait également l'entracte.
Oui,
aussi.
Non, mais il n'y en a pas énormément de coupes, mais il y en a forcément. Après, c'est vrai que voilà, Laurent Frécheret donc, et Dominique Pinon, ils sont un peu aussi amoureux de ce texte-là, donc c'était, je pense, compliqué de tailler trop dedans. Donc c'est vrai que le choix a été fait de garder un maximum de choses, donc ça fait un spectacle qui dure 2 heures, ensuite un entracte de 20 minutes et puis 1 heure, donc il y a 3 heures en tout, mais qu'on voit pas passer, je crois, parce qu'il se passe tellement de choses tout le temps que voilà, en tout cas voilà, dans les retours qu'on a eu, on n'a jamais entendu qu'est-ce que c'est long, c'est trop long.
Je pense comme ça, une coupe. D'ailleurs, est-ce vraiment une coupe ? Elle vous concerne un petit peu. C'est le passage des assassins. Ouais. Quand vous êtes envoyé auprès de, on le nomme Clarence. Mm-hmm. Eh bien, justement, est-ce vraiment une coupe ? Disons, le passage était un petit peu changé par rapport au texte original. C'est-à-dire que normalement, il y a un entretien de Gloucester, de Richard, de Dominique Pinon avec les deux assassins dont vous faites partie. Et puis, il envoie ses assassins. Et là, sur scène, qu'y a-t-il ? Eh bien, les assassins, il les rencontre à peine. Il les envoie. Et d'ailleurs, pendant qu'il les envoie, il est encore présent. Grâce au jeu de scène, on voit monter donc dans une sorte d'échafaudage qui représente la tour, ouais. La fameuse tour de Londres. Eh bien, quand vous êtes présent en train de vous entretenir, en train de bavarder, de discuter un peu, je crois que c'est le terme qu'on peut employer, ouais. Parce qu'il y a un sacré échange avec Clarence. Eh bien, Dominique Pinon, enfin Richard, est également sur scène à dire ne l'écoutez pas. Et ça, c'était un petit peu avant dans le texte original. Vous verrez, ne laissez surtout pas parler parce qu'il va vous embobiner. Et ça marche un peu d'ailleurs. Il se réveille. D'ailleurs, oui, il y a un trait d'esprit sur on va le tuer pendant son sommeil. Ah ben non, si on le tue pendant son sommeil.
Il nous traitera de lâche à son réveil.
Ouais,
en fait, ça fait partie des choses. C'est ce qui est très intelligent dans le travail donc de Laurent Frécheret et Dorothée Zumstein sur l'adaptation et sur les coupes, c'est qu'effectivement il y a des scènes qui ont été mixées comme ça et donc ça donne beaucoup de rythme. Au lieu d'avoir d'un côté Richard qui donne ses ordres aux assassins et puis ensuite la scène des assassins, on a les deux en même temps. C'est une espèce d'effet qu'on peut voir un peu au cinéma comme ça, des espèces de choses comme des espèces de flashbacks. En fait, on voit une scène qui se déroule et puis on se souvient de Richard qui disait ne l'écoutez pas. Et au moment où Clarence essaye de nous embobiner, il dit attention, l'écoutez pas. Voilà, il a fait pareil sur Richmond et Richard. À la fin, normalement, c'est deux discours aux soldats. Mes chers compatriotes,
c'est vrai, oui.
C'est des monologues qui durent plusieurs pages, qui peuvent comme ça paraître un petit peu longs. Et bien là, du coup, ils ont mixé les deux. Ils ont fait une adaptation comme un débat politique en fait, où Richmond et Richard se répondent, ce qui fait qu'il y a un côté comme ça beaucoup plus dynamique que deux longs discours politiques les uns à la suite des autres. Donc voilà, il y a pas mal d'adaptations comme ça qui ont été faites pour rendre la chose plus claire.
Et Laurent, alors... il fait beaucoup de faire différentes scènes dans la même scène, non, comme à la fin qu'on fait pour les cardinals, ils parlent avec Stanley, nous on est de l'autre côté et on n'entend pas qu'est-ce qui se passe dans un côté de la scène. Ou Richard, il parle avec le conseiller des rois, il se retourne et il parle déjà d'une autre scène, même si on n'entend pas. C'est vraiment des trucs subtils que ça donne du rythme, que sinon il faut recouper. On ne voit pas passer les scènes. En fait, il s'expire, il fait des scènes très courtes. Et si on les fait comme lui les fait, ça sera trop des...
C'est intéressant. Est-ce une sorte de pratique cinématographique, hein, un petit peu de split screens, hein, on a le sentiment d'avoir plusieurs écrans sur scène. Ce qui est bien également pour vous, Jessica, et c'est très bien de vous avoir à l'antenne, c'est parce que vous avez un rôle important dans cette pièce. Disons, en termes de, justement, vous l'avez évoqué en tout début d'émission, en termes d'acrobatie, vous avez un passage où vous incarnez donc le petit frère de, vous êtes le petit York, je crois,
oui,
le petit frère
le petit
d'un,
duc de York.
Le petit duc. Vous êtes le frère d'un
roi.
Voilà, il aurait
les pr- prochain
roi. Il aurait pu être roi. Et vous avez un passage où c'est magnifique, avec une épée que vous brandissez, vous faites des acrobaties, vous sautez, vous bondissez, vous rebondissez. Ça, c'est bien. C'est peut-être très léger dans le spectacle, mais il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas que du texte. À un moment, il y a un petit peu cet aspect de liberté pour vous. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le texte, puisque justement, Buckingham, peu après, dit le petit effronté voilà, qui profite de la situation. D'ailleurs, vous cherchez à grimper sur le dos de Dominique Pinot un peu. Mon oncle.
Oui, là, je ne peux pas. Normalement, je saute sur son dos, mais là, il est blessé. Alors, je ne sais pas si je dois dire ça. Non, il n'est pas
blessé. Oui, c'est blessé.
Et là, je ne peux pas monter. Ouais. Mais c'est la première fois qu'en fait, c'est assez important le rôle du petit duc de York.
Ah, vous virevoltez. Ouais.
Oui, on le voit dès le début à la fin. Et normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais il m'a donné la place de pouvoir être là. Il m'a donné la liberté d'utiliser mon cœur. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je suis là un peu. Non, aussi parce que je sais faire de la acrobatie. C'est pas extraordinaire ce que j'ai fait parce que c'est un roue et un butterfly pour les gens, c'est quand même.
On parlait de pirate, ouais, voilà. Moi je trouve qu'il y a du ninja là ici.
Ouais, je suis un peu ninja aussi, je dois dire ça aussi.
Non, mais ce qui est génial en fait avec la participation de Jessica dans le spectacle, c'est que le petit duc d'York, je sais pas quel âge il a 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans, et c'est assez incroyable parce qu'on y croit en fait. C'est-à-dire que Jessica a cette particularité-là de pouvoir faire croire à un petit garçon de.
Ah ouais, de ça, c'est toute la pièce de. C'est un fils, un garçon, c'est un fils.
Et
un
ouais, c'est génial parce qu'avec le costume, avec tout, c'est vrai que les spectateurs se demandent un petit peu, mais c'est une fille ou un garçon. Donc voilà, c'est génial. C'est-à-dire que c'est là que le théâtre a gagné, quoi. C'est quand les spectateurs se demandent si vraiment il y a un petit enfant sur scène, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Avec Jessica, on croit vraiment à ce petit duc d'York, quoi.
Elle est fascinante. Pendant que nous parlons, elle fait des étirements. C'est absolument prodigieux. Quelle acrobate. Acrobate maladroite, un chouïa. On ne dira rien.
J'ai fait tomber les micros.
Il n'y a plus de photos ni de films réalisés. Vous voyez, je vous l'avais dit avant de prendre l'antenne, voyez comme le temps file. Déjà 14h49, il nous reste encore à peu près quoi, un peu plus de 5 minutes pour parler de cette pièce. Moi, ce que j'aime bien quand des acteurs sont présents dans les studios de Radio Canut, c'est qu'ils peuvent parler. Alors après, il ne s'agit pas non plus de trop débiner, mais bon, ils peuvent parler de leur rapport avec le metteur en scène. Comment cela fonctionne-t-il ? Moi, je reste marqué par cette expérience. Les auditeurs en ont peut-être assez. J'ai assisté à ça, il y a une répétition il y a 10 ans. C'était fou comme le metteur en scène pouvait, de manière non pas tyrannique, mais bon, il y avait quand même quelque chose qui se jouait un peu, pouvait, lors d'une répétition, arrêter les acteurs pour dire « Non, non, bon, là, tu vas refaire en beaucoup plus doux. » Et puis l'acteur, le comédien joue et « Non, en fait, non, je me suis trompé. Tu vas refaire en, au contraire, beaucoup plus énervé. » L'acteur, le comédien reprend. Bam, il interrompt encore une fois pour dire « Non, en fait, non, écoute, on va refaire d'une autre manière. » Est-ce que, enfin, sans partir dans cette idée-là, est-ce que Laurent Fréchuret vous laisse une certaine liberté ? Est-ce que, enfin, je sais pas, comment avez-vous travaillé ? Quel rapport avez-vous ? Je suppose que ce sont plutôt de bons rapports puisque après cette expérience de l'opéra de Katsu à Mori depuis 2010, ça remonte à 4 ans, vous avez tout de même continué à œuvrer avec lui. Bien et je sûr. Crois, Jessica, que vous êtes quand même attachée à ce personnage qui a été une sorte de professeur lors d'un stage et puis vous a dit « Je suis séduit, viens jouer dans une pièce que je vais monter. » Donc ça marche bien, oui. Personnages fort sympathiques. Ouais. Et Laurent, si vous nous écoutez, ils sont très contents de vous, vos comédiens.
On t'aime, Laurent.
Ce qui est formidable avec Laurent, avec un metteur en scène comme Laurent, c'est qu'il aime ses acteurs vraiment. C'est-à-dire que il sait avec qui il a envie de travailler. Il fait très peu d'auditions, par exemple. Il aime bien proposer des rôles, c'est-à-dire qu'il pense à quelqu'un, il rêve de personnages, de pièces et de comédiens. Et puis il appelle les comédiens qu'il a envie d'appeler. Et donc là, on est 10.
Il fait des rencontres.
Ouais. Il fait des rencontres, on boit un café, on discute du rôle. Et puis si ça nous plaît, on le fait. Et ça, je trouve ça super. Il y a un rapport très, très simple, en fait, à ça. C'est-à-dire que c'est pas des espèces de casting un peu stressant de machin.
Non, on t'appelle. Merci.
On vous rappellera.
Merci.
Voilà, il y a quelque chose de, je sais pas, ouais, quelque chose d'assez honnête là-dedans. Et puis, il aime vraiment ses acteurs. Donc, effectivement, oui, parce que vous évoquez sur la répétition, c'est quelque chose qui se passe, évidemment, parce que, et comme il nous aime beaucoup et qu'il sait de quoi on est capable, du coup, quand ça marche pas, il s'impatiente un peu et dit allez, on y va, jusqu'à arriver à ce qu'il a envie de voir. Et je pense que là maintenant on fait à peu près ce qu'il a envie de voir. Il a l'air content de nous, donc c'est cool.
Et d'ailleurs, il est techniquement, il n'est plus présent, c'est ça, sur ses dernières représentations. Était-il là hier?
Si, il est beaucoup là. Dès qu'il peut être là, il est là. En fait, il travaille énormément. Donc, il fait un autre spectacle qui s'appelle La Portée de Crachat, qui s'est joué au Théâtre de Rond-Point à Paris et qui s'est joué à Villefranche hier. Quand on était à Saint-Etienne, il mettait en scène aussi un opéra, à l'Opéra de Saint-Etienne, en même temps. Donc, quand il peut être là, il est.
Un bourreau de travail.
Il travaille énormément, ouais.
Et je pensais à autre chose. Est-ce un petit peu ingrat? Je n'ai pas pu vous demander cela tout à l'heure hors antenne. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, peut-être pas ingrat, mais cette partition que vous jouez après l'entracte, où vous êtes seul sur scène dans un coin, ouais, avec une armure, un gant, je crois. Vous n'avez pas de gant aux deux mains, me semble-t-il.
C'est ça.
Vous êtes seul. Et moi, j'attendais que vous preniez la parole. Non, il n'y a rien, aucun mot. Je crois que vous devez bien passer 10 minutes, un quart d'heure, il me semble, assis à droite de la scène. Ouais. Et
c'est difficile. Non, mais
difficile un peu, oui.
Il a des rôles difficiles. Il commence tout nous sur les plastiques. Il doit être là-bas, quoi. Et 15-20 minutes aussi, on fait ça, les meurs.
C'est vous, le
cadavre, c'est moi, ouais. Oui. En fait, au début, c'est Jessica. C'est Jessica qu'il faut féliciter pour le sang.
C'est
François Somerac donc qui a fait les maquillages du spectacle et donc qui a fait une espèce de mini formation à Jessica pour qu'elle voilà, donc sur la tournée c'est elle qui m'ensanglante. Donc après je fais le cadavre.
Et on chante en même temps.
Vrai, vous êtes sous le plastique. Ouais.
Donc c'est moi qui suis sur le plastique. Ça pour le coup c'est un moment un peu de concentration. Je passe du temps aussi sans rien faire, mais c'est un moment de concentration qui est pas désagréable. La deuxième partie que vous évoquiez, effectivement, je suis assis,
c'est un peu rude là.
Avec une armure, la côte de maille
elle
pèse 18 kilos. Quand même la côte de maille. Je dois me tenir tout droit et certains moments. Après, je pense que l'image est chouette et c'est bien pour le spectacle, mais c'est un moment du spectacle où j'ai hâte d'arriver au moment où je prends la parole parce que c'est compliqué. Mais c'est.
Et ça dorme.
Ouais, c'est assez compliqué à faire, mine de rien faire.
et c'est un rôle essentiel puisqu'on l'aurait dit encore, vous êtes à ce moment-là à Richmond.
Voilà.
Richmond qui livre un duel à la toute fin de la pièce contre Richard, qui l'emporte, je vous en prie. Auditeurs, rendez-vous donc au Théâtre de la Renaissance à Oullins, ce soir à 20h, ce mercredi 23 avril, également demain, jeudi 24 avril. Aujourd'hui, je ne sais pas, comme c'est le 350e anniversaire de la naissance de Shakespeare, peut-être qu'il y aura un truc spécial sur scène.
William, quoi, je pense.
Et d'ailleurs,
Happy Birthday William.
Nous sommes en train de nous amuser un peu, alors que vous souhaitiez être un peu plus grave. Vous vouliez tenir un propos.
C'est pas grave. Je pense que c'est aussi notre rôle là de parler de ça. Évidemment, on parle beaucoup de l'intermittence en ce moment. Voilà, juste garder en tête que c'est un statut qui est essentiel. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui pourraient pas exister. En fait, beaucoup de spectacles qui pourraient pas exister.
La télé, la radio,
tout en fait, ouais.
Les théâtres.
Ouais. Il y a énormément de choses qui pourraient pas exister si ce statut n'existait pas. Donc, c'est juste de dire que voilà, il faut se renseigner un petit peu sur ce statut-là et pas avoir une idée un peu préconçue des choses. C'est pas un statut de gens qui profitent du système.
On travaille
énormément.
Beaucoup. Ouais. Il n'est pas que quand on est dans les théâtres, il faut qu'on ait le temps d'apprendre notre texte. Il faut qu'on s'entraîne, qu'on prépare notre personnalité. Qu'on fasse des voyages à 6h du matin pour arriver à 20h du soir à jouer, on a quand même une journée large.
Et donc, soyons précis, vous dites se renseigner, je vous en prie. Est-ce que vous avez, forcément, je pense à cela, des liens internet ou alors des numéros de téléphone ou des organismes que vous pourriez nous indiquer à contacter pour justement avoir ces renseignements?
Facebook, il y a beaucoup de. Oui. Si tu mets solidarité pour l'intermittent, il y a plein d'associations et de gens qui luttent pour ça parce que n'est pas tout le monde sait. Et en fait, c'est juste taper en Google qu'est-ce qui se passe avec les intermittents,
la chose importante à dire, à savoir, c'est que c'est effectivement, il y a beaucoup de spectacles qui pourraient pas se faire sans Richard III. C'est un spectacle qui s'est fait dans de relativement bonnes conditions, mais même dans ces très bonnes conditions, il y a des choses sans ce statut là qui seraient pas possibles. Une chose toute simple, c'est qu'il faut qu'on arrive au début des répétitions en sachant notre texte. Apprendre son texte, ça demande du temps, et ça, c'est du temps qu'on peut prendre grâce à l'intermittence. Je fais un autre spectacle à côté qui s'appelle Le Porteur d'Histoire, qui aujourd'hui est un spectacle qui a une belle vie, où on joue dans beaucoup d'endroits, mais la création de ce spectacle, la répétition de ce spectacle n'aurait pas été possible sans ce statut et sans effectivement le confort, disons, que permet ce statut-là. Et il faut être vigilant, il faut conserver ce statut. Voilà, s'il y a des coupes à faire dans les budgets, c'est peut-être pas dans l'intermittence qu'il faut regarder en premier.
Et il faut dire aussi que c'est pas que pour les artistes, c'est aussi autour de ça, c'est le théâtre, tous les cafés autour, les hôtels, ça remplit les transports, c'est pour tout le monde, ça va être une perte, et ça va être une perte pas bonne, parce que on a besoin de l'art, de l'art, de la culture. C'est pas là, comme dit Amoré, qu'il faut couper les bougies. Alors,
ne nous faisons pas trop peur, même si je crois que c'est l'arrivée de Pascal pour l'émission suivante qui a effrayé un instant Jessica. Le blues des canuts donc commencera bien. Moi, je pense que nous sommes en fin d'émission. Je crois qu'on va faire entendre le générique. Voyez-vous, Amaury, Jessica, des propos encore à apporter. Comment se renseigner sur cette pièce pour savoir si elle aura une autre durée de vie sur le théâtre de l'incendie, peut-être, c'est
théâtre
ça
théâtre de l'incendie, Richard III, Laurent Fléchuret.
Pour voir s'il y aura donc encore d'autres représentations. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais pour l'instant, enfin, c'est ça qui était quand même terrible. Il y a des projets, mais on ne réussira pas à vous tirer les verres du nez. Ce sont des.
Mais s'il y a quelqu'un qui est en théâtre, on est disponible.
Non, mais disons, vous disiez tout à l'heure, vous indiquiez, il y a peut-être des projets dans l'air, mais rien encore de très concret. Donc vous ne direz rien. Vous ne parleriez pas sous la torture.
Mince. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis.
Merci.
Avec plaisir. Moi, j'ai passé un fort bon moment hier. C'est encore possible de voir cette pièce Richard III. Je mettrai tous les renseignements sur le blog de l'émission Spectaculaire, où ils ont Shakespeare-taculaire aujourd'hui, puisque c'est le 23 avril. J'ai un numéro de téléphone à donner peut-être, est-ce que je l'aurai sur moi à la Renaissance.
Martin, je crois que ça me paraît évident.
Non.
06, j'ai le numéro de la Renaissance.
On pourra donner le de
04 72 39 74 91 04 72 39 74 91, c'est le numéro de téléphone du Théâtre de la Renaissance, dirigé encore par Roland Auzet, sera bientôt Gérard Lecointe, qui a d'ailleurs une présentation de saison qui arrive, je crois que c'était à la mi-mai que toutes les présentations de saison auront lieu, les TNP, enfin le TNP, les Célestins, l'Opéra, l'Auditorium, tout ça. On vous souhaite encore une bonne représentation ce soir, une bonne... Une bonne ultime demain, ouais. La ultima.
La ultima.
Présentation.
Présentation, por favor.
Oui, après, on va terminer. Eh bien, générique d'émission, et puis on va vraiment se dire au revoir de manière très, très courtoise et cordiale. Gérald y tient toujours.
Joyeux.
Eh bien, puisque Gérald donc y tient, je le disais, au revoir Amaury.
Au revoir, à bientôt.
Quel plaisir de vous avoir eu. Au revoir Jessica.
Merci,
Jessica.
Belle journée à tout le monde.
comment vous retrouvez sur internet peut-être Jessica? J'ai vu qu'Amaury, il y a différents éléments, mais vous Jessica, il faut mieux suivre.
Moi je suis privée.
Vous êtes
privée de vie publique.
Jessica Martin.
Non, c'est Jessica Martin, mais il y a beaucoup en
Martin,
fait.
Martin quand même, de la Galice.
Sinon, c'est la copine de Shakira et Beyoncé.
Il faudrait monter un site Pirate Ninja, là, il y a un truc à faire Amaury. Bonne fin des représentations à vous. Bonne fin d'après-midi à vous les auditeurs. Et puis nous nous retrouvons. Petite pause que nous allons faire là dans les jours à venir. On se retrouve le 14 mai, mercredi 14 mai, avec peut-être une pièce ou peut-être Louis Calafert, exposition qui est à la bibliothèque municipale de Lyon. Il n'y a rien de confirmé, ce serait peut-être plutôt une pièce, je crois. Et puis il y aura également un rendez-vous la semaine suivante pour une exposition. Beaucoup de choses. Oui, bien entendu, je laisse encore la parole volontiers à Amaury.
Une petite information promo pour ceux qui passent à Paris, donc du 6 au 25 mai, au Théâtre 13 Scène, je joue un spectacle qui s'appelle Le Laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine des gens. Voilà, un titre bien long qui parle en fait de danse contemporaine. C'est une espèce de répétition chaotique, d'une bande de bras cassés qui essaye de faire de la danse. C'est très drôle, donc voilà, venez au Théâtre 13 Scène.
Allez donc à Paris, allez au Festival Britain. Emmanuel arrive trop tard pour faire un compte-rendu, ce n'est pas grave, j'en parlerai sur le blog. Et puis voilà, allez à Paris et restez surtout à l'écoute de Radio Canu. C'est toujours possible de le faire sur internet, radiocanu.org. Salut, ciao tout le monde.